don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民南家
正忙着。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Tiffaine de Roquigny, mais aussi Clément Salazar, Xavier Martinet, Hélène Paquet, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Bruno Gagnère-Fontani. Dernier volet consacré aux Panama Papers, on va évoquer ce matin les conséquences, disons, plus politiques du scandale en nous penchant en particulier sur le cas de la Grande-Bretagne, alors que les Britanniques se rendront très bientôt aux urnes pour décider du maintien ou non de leur pays dans l'Union européenne, le Premier ministre David Cameron se voit déstabilisé par cette affaire.
L'enquête dont nous avons besoin, tout d'abord, c'est que la HMRC, notre autorité fiscale, utilise toutes les informations qui viennent du Panama pour vérifier que tout est mis en place pour s'assurer que les individus et les sociétés paient leurs impôts correctement. De bien des façons, ce qui ressort des Panama Papers, c'est ce que nous sommes en train d'introduire dans notre pays, c'est-à-dire un registre de titres de propriété pour que chacun puisse voir qui possède quelle entreprise. En ce qui concerne ma situation financière personnelle, je ne possède pas d'actions, pas de crédit offshore, pas de fonds offshore, rien de ce genre. Mon père m'a laissé de l'argent très généreusement, plutôt beaucoup d'argent. Il s'agissait de 300 000 livres, ça a été publié à l'époque comme les choses sont prévues. De toute évidence, je ne peux pas indiquer la source de chaque petite somme d'argent et ce n'est pas à moi de poser la question à mon entourage aujourd'hui. Beaucoup des critiques sont basées sur l'idée fausse que ces fonds ont été créés avec l'idée d'éviter les impôts. Ce n'est pas le cas.
Voilà, à deux mois du référendum sur un possible Brexit, David Cameron n'a jamais été en si mauvaise posture pour défendre le maintien de son pays au sein de l'Union européenne. La gestion calamiteuse du scandale des Panama Papers, où le nom de son père est cité, a sérieusement écorné sa crédibilité. Les Britanniques ne lui pardonnent pas d'avoir attendu 3 jours avant de reconnaître qu'il avait effectivement détenu des parts dans le fonds fiduciaire de son père immatriculé aux Bahamas, et cela, même s'il a vendu ses fonds. Avant de devenir Premier ministre en 2010, en pleine crise de confiance, David Cameron doit désormais sortir de ce mauvais pas dans lequel il s'est lui-même installé en organisant cette consultation populaire. Lui qui espérait être le grand prescripteur du oui au maintien a finalement donné des armes à ses adversaires en multipliant les bévues politiques. Alors dans quelle mesure est-ce que tout cela pourrait le fragiliser? Sa campagne risque-t-elle d'en être altérée? Et d'ailleurs, au-delà de cette affaire, quel est le rapport de force aujourd'hui entre les partisans et ses opposants? Et quels sont les enjeux sociaux et économiques de cette affaire-là, de ce Brexit? Autour de cette table pour évoquer cette question, d'abord Sarah Picard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en civilisation britannique à la Sorbonne Nouvelle. Vous êtes notamment une spécialiste des mouvements sociaux. On avait eu l'occasion d'en discuter ici à ce micro. À vos côtés, Catherine Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, économiste au département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. On va tenter de voir ensemble où en sont donc les débats outre-Manche et quels sont les grands enjeux de ce scrutin, exactement comme le font nos confrères de l'Obs qui sortent un dossier spécial justement sur ce sujet cette semaine, Brexit or not Brexit, et dont l'une des journalistes envoyée spéciale à Londres, tout juste de retour en France, eh bien, va nous accompagner ce matin pour ce partenariat d'un jour dont on se réjouit. Bonjour Sophie Fay.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous ouvrez votre dossier, Sophie Fay, sur cette question. Vous soulignez en réalité combien aujourd'hui ce débat sur la sortie ou non de l'Union européenne est fort aujourd'hui. Alors on le sait, mais vous dites que ça traverse toute la société jusqu'à l'intérieur même des familles. C'est extrêmement clivant.
Ah, totalement clivant. C'est un peu l'affaire Dreyfus, quoi. Il y a la table avant d'en avoir parlé et la table après en avoir parlé. Et vraiment toutes les personnes avec qui qu'on rencontre, qu'on a l'occasion de rencontrer, ont ce débat à l'intérieur de leur famille. On a rencontré par exemple un jeune homme qui a créé une banque en ligne, une start-up, et donc lui autour de lui à Londres, il a absolument que des gens qui sont pour rester dans l'Europe pour une raison très simple. 40% des développeurs informatiques de son entreprise viennent du continent, mais il dit que quand il rentre chez lui, dans le nord de l'Angleterre, et qu'il parle avec sa famille qui est restée là-bas, ils sont tous absolument pour sortir de l'Europe. Ils trouvent que cette Europe ne protège pas, qu'elle a accéléré la désindustrialisation du pays, et ils se sont parlé toutes les fêtes de Noël, et à la fin, ils sont tous repartis avec les mêmes positions. On a la même chose dans un couple composé d'un historien et d'une entrepreneuse, et lui pense que l'Angleterre n'a jamais été enfin que le Royaume-Uni n'a jamais été européen, donc qu'il n'a rien à faire dans cette union, qu'il peut avoir des accords de libre-échange, mais pas y rester culturellement, alors qu'elle veut absolument rester ancrée dans l'union, puisqu'elle a beaucoup d'affaires avec elle et qu'elle craint, comme beaucoup dans les milieux économiques, que ce soit une catastrophe. Cette période d'incertitude dans laquelle on ne sait pas très bien ce qui va se passer, pendant laquelle l'Angleterre devra, le Royaume-Uni devra renégocier les accords commerciaux et où on pense que beaucoup d'investissements étrangers ne se feront plus, que la livre va se casser la figure et qu'il y aura un énorme attentisme avec des risques pour le marché immobilier aussi.
Et rappelons évidemment que les sondages, on a le oui et le non au coude à coude avec encore beaucoup d'indécis. Donc tout va se jouer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines.
Mais les deux derniers sondages, si j'ai bien entendu, sont favorables à rester dans l'Europe, ce qui est une petite lueur,
un tout petit peu. Sarah Picard, dans quelle mesure est-ce que vous pensez que l'affaire des Panama Papers peut fragiliser le Premier ministre qui va donc défendre jusqu'au 23 juin l'option du maintien? Est-ce que vous pensez que ce référendum pourrait se transformer d'une certaine manière en référendum pour ou contre Cameron? Parce que c'est ça le danger. Et on sait combien en fait les référendums, en réalité, on ne répond jamais à la question.
Donc, Panama Papers a comme ennemi, bien sûr, l'image de David Cameron, mais il ne fait que renverser l'image qu'on a un pays à deux vitesses avec les élites qui savent placer leur argent, profiter du système et les autres. Et ça vient à un moment aussi, quand même, où on a eu 6 ans d'austérité dans le pays, donc les gens ont vécu des coupes dures, y compris, par exemple, au dernier budget, avec les allocations pour les personnes handicapées. Et donc, il y a un vrai décalage entre les haves et les haves not, et surtout, David Cameron, quand même, il est l'image du maintien du pays dans l'Union européenne. Et du coup, dont son image est endommagée, bien sûr, sa réputation, et peut-être aussi par rapport au référendum. Et les dangers, c'est que justement, quand les gens pensent à court terme, à lui, à faire du mal, à faire lui punir pour toutes ces années d'austérité, au lieu de penser vraiment à la question européenne.
C'est quelque chose qui décrédibilise d'autant plus sa parole, Catherine Mathieu, que depuis longtemps, les conservateurs et David Cameron le premier explique à leurs concitoyens qu'ils luttent contre les paradis fiscaux.
Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, plus précisément, David Cameron dit depuis plusieurs années qu'il faut baisser la fiscalité sur les entreprises, qu'il faut faire du Royaume-Uni l'endroit le plus attractif pour les investisseurs, donc en ramenant des taux d'imposition sur les sociétés à des niveaux très faibles, 20% seulement aujourd'hui au Royaume-Uni, 17% dans 2 ans. Et en contrepartie de cette baisse de l'imposition sur les sociétés, David Cameron dit « Nous luttons contre l'évasion fiscale et nous allons nous assurer que les entreprises payent bien leurs impôts sur le territoire britannique. » Et comme le disait Sarah Picard à l'instant, comme il y a eu plusieurs années d'austérité qui pèsent sur les ménages en priorité, tous ces éléments mis ensemble font qu'aujourd'hui la situation est particulièrement délicate pour David Cameron.
Sarah Picard, il y a un autre scandale dont on parle peut-être un petit peu moins ici en France, mais dont on parle beaucoup en Grande-Bretagne, c'est cette question des 27 millions de tracts anti-Brexit envoyés aux citoyens avec les deniers publics pour expliquer les positions du gouvernement et pour les défendre. Il est scandaleux que le gouvernement utilise l'argent public pour nous dire ce que nous devrions penser et faire. Voilà ce qu'a dit Nigel Farage du UKIP. Vous pensez que ça va jouer aussi, peut-être, en faveur d'une sortie?
Mais ça ne fait qu'en renforcer l'image que le gouvernement essaie de convaincre le peuple, mais avec plus d'atouts financiers et politiques que l'opposition. Donc, ce n'est pas juste.
En même temps, il est au pouvoir.
Oui, mais il dépense l'argent public en faveur de sa propre politique, sachant que son gouvernement est divisé sur le sujet déjà. Et que l'autre côté, les Brexit, n'ont pas accès à cet argent-là.
Sophie Fay.
Ce que je trouve très intéressant dans cette affaire des Panama Papers, c'est que si, au fond, si les Britanniques veulent vraiment lutter contre l'évasion fiscale, lutter contre cette optimisation qui est mondiale, il faut absolument qu'ils s'accrochent à l'Europe. Parce que les paradis fiscaux, ils les ont chez eux. Ils les ont à Jersey, Guernsey. Ils les ont dans les îles Vierges britanniques. Et c'est très difficile de faire bouger ça. Et je dois dire qu'il faut quand même rendre à Cameron et à Osborne un hommage. Et surtout au Parlement britannique qui a fait des auditions formidable où ils ont vraiment mis en difficulté les dirigeants de Starbucks, les dirigeants d'Amazon. Et au niveau de la Commission européenne, maintenant, il y a une position britannique qui n'est plus qui protège la City, mais qui n'est plus favorable à, qui veut aussi taxer ces grandes multinationales. Et au fond, l'argent des particuliers mis dans les paradis fiscaux, c'est très immoral, mais si on veut vraiment être efficace et faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État, c'est d'abord à cette évasion fiscale des multinationales. Et de ce point de vue-là, la Grande-Bretagne aura plus de résultats en restant dans l'Europe qu'en restant en dehors.
On parlera bien sûr tout à l'heure beaucoup des conséquences économiques. On va commencer vraiment sur le volet politique. J'ai une question à vous poser, Sarah Picard, sur l'immigration. Parce que lors des discussions entre Londres et Bruxelles pour définir ce fameux accord qu'il y a eu, la question de l'immigration, elle avait été absolument centrale. On se souvient notamment de ce point exigé par Cameron qui concernait l'arrêt des aides sociales aux réfugiés. On a l'impression aujourd'hui que ce thème de l'immigration, et peut-être que je me trompe, il est moins important et que au fur et à mesure, les questions économiques, justement, sont en train de prendre le pas. Est-ce que c'est vraiment le cas? Comment, selon vous, cette question de l'immigration va peser, finalement, le 23 juin?
C'est une question qu'on a beaucoup abordée dans le passé. L'immigration n'a pas été au cœur des débats auparavant dans le pays. Mais c'est vrai, avec la crise de l'immigration, et pas seulement les réfugiés, il est venu à jour. Et donc, en fait, le problème, c'est que Nigel Farage, de UKIP, qui base toute sa campagne, toute son existence même, sur l'idée de quitter le Nord-Pienne, a su mobiliser cette question. Et donc, la droite, le conservateur, hésite un petit peu, parce que dans les passés, ce n'est pas une question qu'on aimait aborder, c'était trop sensible. Mais maintenant, en effet, on parle beaucoup plus d'immigration. Et David Cameron, il hésite aussi parce que dans le passé, il a dit qu'il voulait limiter l'immigration. Il a donné des chiffres qu'il n'a pas réussi à atteindre. Et donc, pour lui, c'est un échec. Et pour son parti, c'est un échec. Donc, pour lui, l'immigration, c'est un sujet à éviter, surtout parce que quand il a essayé d'obtenir des concessions à l'Union européenne, plus tôt dans l'année, il n'a pas réussi à obtenir ce qu'il voulait. Donc, c'est vraiment un point faible.
Il y a une stratégie, là, de Cameron, de moins évoquer cette question-là, peut-être. Catherine Mathieu.
Oui, alors effectivement, David Cameron n'a pas réussi à obtenir exactement ce qu'il voulait, mais il faut peut-être rappeler ce qu'était la demande initiale l'été dernier des Britanniques. La demande initiale, c'était de permettre aux Britanniques de freiner l'immigration des travailleurs en provenance de l'Union européenne. Et ce point-là, il est complètement inacceptable dans les traités actuels qu'on a dans l'Union européenne. Si un travailleur d'un pays s'installe dans un autre pays pour travailler, il a tout à fait le droit de s'installer et... Point supplémentaire, il a les mêmes droits. David Cameron n'a pas réussi à convaincre ses partenaires européens qu'on pouvait laisser aux Britanniques la possibilité de ne plus laisser entrer, pour résumer, les Polonais, les Roumains et les Bulgares, et qui viennent travailler au Royaume-Uni, qui ont un emploi au Royaume-Uni, où le taux de chômage est très faible, 5% seulement. Mais David Cameron a obtenu dans l'accord de février la possibilité que le Royaume-Uni limite les droits sociaux des travailleurs de l'Union européenne et limite aussi les prestations familiales qui sont données aux enfants de ces travailleurs qui résident dans le pays d'origine. Donc en fait, de mon point de vue, David Cameron a obtenu beaucoup du point de vue de l'Union européenne, quelque chose qui semblait complètement inacceptable.
Parce qu'il avait des alliés aussi à l'intérieur de l'Union européenne.
Mais il avait
sur cette question-là.
Oui, mais ce qui était très compliqué dans cet accord de février, c'est que d'un côté, si on essaye de résumer, il y avait des alliés, principalement l'allié allemand, qui souhaitait à tout prix qu'il y ait un accord pour que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, parce que le Royaume-Uni, c'est vraiment le pays libéral qui représente le plus l'économie libérale dans l'Union européenne, et de l'autre côté, tous les nouveaux pays membres d'Europe centrale et orientale, qui étaient très choqués qu'on commence à dire que soupçonner leur concitoyens de venir faire du tourisme social au Royaume-Uni.
Alors, on a Cameron d'un côté, puis on a Corbyn de l'autre, le leader des travaillistes, qui a récemment appelé officiellement à voter en faveur du maintien. Écoutez-le.
Au fil des années, moi et beaucoup d'autres ont été très critiques sur les décisions prises par l'UE. Et je reste très critique à cause de ses lacunes, à cause de son manque de responsabilité face aux pressions pour déréglementer et privatiser les services publics. L'Europe doit changer. Mais le changement ne peut arriver que si nous travaillons avec nos alliés au sein de l'Union européenne.
Voilà, il y a des lacunes, mais il faut quand même rester. Est-ce que c'est pas un peu étonnant, Sarah Picard, que le principal parti d'opposition, en l'occurrence le parti travailliste, eh bien, soit sur la même position que les conservateurs qui sont au pouvoir? Et si on rentre un tout petit peu dans les détails, en quoi les raisons qui motivent justement cette position peut-être diffèrent-elles de ce qu'on retrouve du côté des conservateurs?
La question de l'Europe a toujours divisé les deux principaux partis politiques en Grande-Bretagne. Au départ, les partis travaillistes étaient contre l'idée de rester, d'être dans l'Union européenne, mais il y a des décennies. Mais
oui, Corbyn avait voté contre l'adhésion à l'Union européenne en 1975. Sur le référendum de 1975,
oui. Oui, mais c'est surtout les questions sociales et des travailleurs dans le traité de Maastricht et le chapitre social qui a donné en Angleterre le salaire minimum, les directives sur les heures de travail, etc. Et donc, grâce à l'Union européenne, Corbyn et d'autres membres du parti travailliste voient que l'Union européenne a été un point positif pour les travailleurs en Angleterre. C'est pour ça aussi que la Confédération Fédération nationale des syndicats soutient aussi le maintien de l'Union européenne dans l'Union européenne. Ce qui est bizarre, c'est surtout que Cameron veut rester dans l'Union européenne. Rester. C'est lui qui est en décalage avec son parti politique où la majorité de ses députés ouais. veulent sortir.
On va y revenir parce qu'effectivement, c'est peut-être finalement le plus grand danger, c'est le camp Cameron lui-même. Mais quand même, ce n'est pas un soutien franc et massif quand même tout ça. Est-ce que ça ne risque pas de poser problème et de manquer dans la mobilisation de l'électorat de gauche, Catherine Mathieu ?
Ah, bah, probablement. Enfin, quand on regarde un petit peu ce que disent les sondages...
On soutient du bout des lèvres, quand même. Hein.
Oui, parce que, effectivement, les Britanniques ont toujours entretenu un rapport très particulier à l'Europe, un rapport très distant. Les Britanniques sont très attachés au fait qu'ils sont souverains, qu'ils veulent rester souverains de leurs décisions en matière de politique. C'est un grand pays. Et toujours, le Royaume-Uni, dans l'Union européenne, s'est présenté avec, voilà, une vision très cohérente de ce que doit être l'Union européenne. Une Europe du marché unique, une Europe du libre-marché, mais une Europe où chacun doit rester souverain de ses décisions. Donc forcément, aujourd'hui, l'Union européenne, qu'est-ce que c'est ? Ben, on est un petit peu dans une étape où on est en train de perdre les uns et les autres, surtout dans la zone euro, nos souverainetés. Et puis, on n'est pas vraiment non plus dans un état... dans une union politique. Une union politique, ça, c'est vraiment quelque chose que les Britanniques détestent. Ils ne veulent pas en entendre parler. Alors, c'est compliqué pour un Britannique de se positionner aujourd'hui sur la question de l'Union européenne. Est-ce qu'on veut aller vers une union politique ? Non, je pense que l'ensemble des Britanniques dirait ça. Est-ce qu'on veut rester dans l'Union européenne pour faire avancer davantage les intérêts britanniques ? Je pense que c'est plutôt la position de Cameron qui utilise l'Union européenne vraiment comme un accès au libre marché et le moyen de dérouler la politique libérale que les conservateurs défendent. Et puis pour les travaillistes, bah, c'est un petit peu compliqué parce que l'Union européenne effectivement apporte certains acquis sociaux, mais en même temps, ça veut dire renoncer quand même au fait totalement souverain.
Sophie Fay, c'est étonnant quand même parce que finalement, ce qu'on entend là, c'est que le clivage entre travaillistes et conservateurs n'est pas aussi évident que ça, en tout cas sur la question justement de l'Union européenne. C'est des discussions qu'on a aussi chez nous. Hein. On parle beaucoup de la fin de ce clivage gauche-droite et que finalement, on aurait plutôt aujourd'hui des divisions entre souverainistes justement et mondialistes. On est quelque chose aussi, il y a une crise aussi du côté des politiques britanniques sur ce point-là.
Oui, complètement. Et puis, Corbyn, c'est l'aile gauche du Parti travailliste, donc c'était l'aile la plus eurosceptique. Mais en même temps, je crois qu'il a voté pour, en fait, en 75. C'est après qu'il a été
critique. Je crois qu'il a voté contre. Il l'a dit, d'ailleurs. Il l'a reconnu. Oui, il a dit, j'ai voté contre, mais quand même.
Et donc, mais il y a quand même 90% du Parti conservateur, du Parti travailliste, et notamment toute la branche qui a été battue par Corbyn, les Miliband et tout ça, qui sont pour le maintien dans l'Union et qui vont faire campagne pour ce qui les pauvres petits 10% de travaillistes qui se retrouvent dans une campagne avec le parti populiste UKIP de Nigel Farage, ceux-là, ils sont très très embarrassés parce que la manière dont ça fonctionne, c'est pas du tout comme en France, c'est que pour le référendum, il y a que deux campagnes. Donc il y a une campagne pour rester, une campagne pour sortir. Et tout le monde doit se regrouper sous la même bannière, quelle que soit sa famille politique. Donc on va trouver une campagne derrière laquelle il y aura des conservateurs, des travaillistes et une campagne derrière laquelle il y aura des conservateurs comme Boris Johnson, qui est quand même le plus populaire en ce moment en Grande-Bretagne. C'est étonnant, c'est le seul homme politique que les Britanniques appellent par son prénom. Tout le monde vous parle de Boris dès que vous traversez la Manche.
Non, mais c'est vrai que c'est étonnant pour nous parce que chez nous, normalement, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Alors que là, Cameron a dit très clairement que ses ministres avaient le droit de se positionner comme ils le souhaitaient sur cette question du Brexit. Et d'ailleurs, on a effectivement des ministres, le ministre du Travail et des Retraites, la ministre de l'Intérieur, on a aussi le ministre de la Justice. Tous ces membres du gouvernement se sont positionnés pour le Brexit. Sarah Picard.
David Cameron n'avait pas le choix que de donner le vote libre à ses ministres, à ses députés, parce que vu que le parti est tellement divisé sur ce sujet, déjà sa position est fragilisée. Et donc, s'il n'avait pas donné le choix, il aurait une mutine dans son parti.
D'accord, enfin, ça va peut-être le diviser encore plus. On se dit que finalement, à l'issue du vote, c'est quel sûr. Que soit le résultat, il risque d'avoir un parti extrêmement divisé, plus que jamais.
Non, mais il faut faire Sophie un petit flashback sur la raison du référendum. La raison du référendum, c'est que quand il était en campagne, il y avait UKIP qui s'appuyait très très fort sur le sentiment eurosceptique qui est assez partagée au Royaume-Uni. Et donc, du coup, il a décidé, lui, pour une fois, de trancher le nœud gordien dans son parti et de regrouper tout le monde, de poser la question une bonne fois pour toutes, pour que, même si les gens ne sont pas d'accord, le débat soit tranché et qu'il n'y ait plus sans cesse cette division dans son parti. Donc, il a pris un pari osé, mais ce qu'il veut, c'est de trancher cette question.
C'était peut-être aussi le pari de son maintien, c'est-à-dire que s'il n'avait pas fait ça, s'il n'avait pas pris cette position, il ne serait peut-être plus aujourd'hui Premier ministre.
Ah, bien sûr, parce que dès 2013, il a annoncé que si les conservateurs gagnaient l'élection aux élections de 2015 et qu'il redevenait Premier ministre, il conduirait un référendum avant 2017. Donc ça lui a permis effectivement de rester et de mener la campagne des élections de l'an dernier. Et puis franchement, je pense que sur le plan démocratique, c'est une très bonne chose qu'on ait au sein d'un parti une discussion ouverte et que quand il y a des discussions, ben, finalement, faisons un référendum.
Sarah Picard.
Oui, il faut tenir compte aussi du fait qu'il ne pensait jamais que les conservateurs allaient gagner les élections de 2015. Donc oui, pour empêcher la fuite vers UKIP, oui, pour faire plaisir à ses députés, mais aussi, c'est un pari parce qu'il pensait qu'il n'allait pas gagner les élections ou au pire il allait être dans une coalition. Du coup, le référendum n'allait jamais avoir lieu. Donc en fait, pour lui, c'est un cauchemar.
C'est total. Vraiment le piège, ce qu'il fait.
Le résultat, moi, je le trouve quand même assez formidable quand on va au Royaume-Uni parce que tous les sujets maintenant sont traités sur le fond à l'aune de la question européenne. Vous avez en ce moment deux sujets qui font débat. Le groupe indien Tata qui est propriétaire de plusieurs aciéries a décidé de se retirer de ce business parce qu'à cause du prix de l'acier qui est tombé très bas du fait de la concurrence chinoise, l'activité n'est plus rentable en Angleterre et au Pays de Galles. Et donc, ils ont décidé de fermer notamment ou de vendre une grosse aciérie à Port Talbot. Et donc, tout le monde se pose la question de savoir si est-ce que ce problème, si on n'était pas dans l'Union européenne, serait plus facile à résoudre ou pas. Et les vrais arguments sur l'appartenance à l'Union sont posés et sont disputés des deux côtés. Et le résultat, c'est qu'on voit que l'Union n'a pas protégé les producteurs d'acier parce que le gouvernement britannique, notamment, s'est opposé à ce qu'il y ait des barrières douanières tarifaires pour protéger cette activité. Donc ce problème, ce n'est pas tant l'Union européenne que la position politique des Britanniques qui ont toujours été très favorables au libre-échange. Et en même temps, on se dit aujourd'hui, si on sortait, est-ce qu'on pourrait plus facilement protéger l'acier? Mais si on sortait et qu'on était dans un débat pour signer un accord de libre-échange avec les Chinois, est-ce qu'on pourrait commencer la négociation en disant à Pékin, on va mettre des barrières douanières sur votre acier et on va commencer par vous taxer avant de négocier un libre-échange de nos produits? Ça peut pas fonctionner. Donc on se rend compte que sur ce sujet-là, l'Europe ne protège pas complètement, mais sortir de l'Europe n'aide pas du tout. Donc on pose vraiment le débat au fond. Il y a le même débat sur le fond, sur le système de santé britannique. Est-ce que si on sort de l'Union européenne, on pourra donner plus d'argent au système de santé, est-ce qu'on aura moins d'étrangers dans le système de santé? Et là, on fait les comptes, on regarde l'immigration, toutes les cotisations sociales que l'immigration apporte, tous les impôts que ces travailleurs immigrés qui donnent du dynamisme à l'économie apportent, rapportent plus que le coût des soins.
On va venir dans un instant aux questions économiques, aux conséquences économiques possibles d'un Brexit. Mais d'abord, vous parliez de Boris, parce que tout le monde dit Boris Johnson, ouais. Donc le maire de Londres, l'un des plus fervents partisans du Brexit. Écoutez ce qu'il disait, c'était il y a quelques jours.
It is precisely because we stayed out of the euro that we are now one of the most successful economies.
C'est précisément parce que nous restons hors de l'euro que nous sommes à présent l'une des économies les plus performantes d'Europe. Et si nous quittions le carcan de Bruxelles, nous pourrions saisir immédiatement ces opportunités de libre-échange négligées depuis longtemps, ce que l'on ne peut pas faire pour le moment. Nous pourrions signer des accords de libre-échange avec l'Amérique, avec la Chine, avec les économies émergentes partout dans le monde, et ceci avec notre autorité, avec l'autorité du Royaume-Uni. Et je pense que si nous avons la confiance en nous pour faire cela, pour reprendre le contrôle de notre argent, de nos frontières, pour retrouver la possibilité pour les gens de ce pays d'élire et de rejeter des gens qui prennent vraiment des décisions à propos du pays, alors je pense que nous pourrons emmener ces pays plus loin avec de la croissance et des opportunités qui n'ont rien à voir avec la bureaucratie de l'Union européenne.
Voilà, c'était donc Boris Johnson le 11 mars dernier. Sarah Picard, comment comprendre les positions de Boris Johnson? Est-ce qu'il veut montrer au reste du monde qu'il a raison face tout le monde? je dis ça parce que je rappelle qu'il a écrit l'année dernière un livre sur Winston Churchill, Comment un seul homme a fait l'histoire, qui est paru chez Robert Laffont. Est-ce qu'il cherche à réveiller justement chez les Britanniques ce sentiment que la Grande-Bretagne a un destin peut-être à part, singulier, différent de celui de l'Europe continentale? C'est ça qu'il essaye de faire?
Bon, Boris Johnson, au départ, était contre, voulait rester dans l'Union européenne il y a quelques années. Il a fait une volte-face totale. Pour moi, je vois ça par opportunisme politique total, parce qu'il voit que la majorité des députés conservateurs sont pour le Brexit. Il voit que David Cameron va être très démuni après le référendum, quels que soient les résultats. Et lui, il prépare sa propre arrivée au pouvoir comme Premier ministre. Donc c'est pour ça qu'il a attendu un bon moment avant de se déclarer, avant de tourner sa veste, si vous voulez, ou tourner sa veste. Et donc, il instrumentalise cette campagne totalement. Il a dit qu'il n'allait pas en parler en public, mais finalement, il le fait. Il le fait beaucoup. Et donc, il prépare sa prochaine candidature pour être Premier ministre après David Cameron.
C'est de la politique politicienne pour vous. Catherine Mathieu, vous êtes d'accord?
Je vais plutôt réagir sur le plan économique de ce que propose Boris Johnson. Je pense que justement, il représente bien cette fraction de l'électorat britannique où on se dit que si le Royaume-Uni retrouve sa liberté complète, le Royaume-Uni pourra avoir un modèle de croissance complètement cohérent. Le Royaume-Uni, comme l'a rappelé dans l'interview que vous avez passé, l'extrait, Boris Johnson a choisi de ne pas entrer dans la zone euro, a gardé sa monnaie. Le Royaume-Uni reste maître de ses politiques budgétaires. Le Royaume-Uni, s'il sortait de l'Union européenne, pourrait conduire exactement les politiques commerciales comme il souhaite l'entendre. Et donc, il a ce discours très cohérent, Boris Johnson, je pense, et c'est pour ça qu'il est très... il reflète bien, je pense, ce que souhaitent les partisans du Royaume-Uni d'une sortie de l'Union européenne.
Sophie Fay.
Alors, il a raison de dire que l'économie britannique va très bien grâce à sa position dans l'Europe, mais j'ai envie de dire c'est pas du tout parce que il sera encore mieux en sortant, c'est parce que il bénéficie, comme dit George Soros, du meilleur des deux mondes. Ils ont l'accès au marché unique. Ils ont un poids très important à la Commission et beaucoup plus d'influence que ce qu'on pense sur l'élaboration des directives européennes, parce qu'ils sont formidablement organisés et que les Britanniques ont aussi l'atout de la langue pour très bien fonctionner dans les institutions. Et puis surtout, ils ont la livre. Donc ils ont gardé une indépendance monétaire, ils ont gardé une indépendance de politique monétaire, ils ont gardé, ils ont la haute main sur la finance avec la City, ils ont des réglementations qui restent un petit peu en dehors des réglementations européennes, donc ils ont le meilleur des deux mondes.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des questions autres que les questions purement économiques, questions purement monétaires, est-ce qu'il n'y a pas des questions aussi d'identité derrière ça? Vous avez vu hier un sondage qui est sorti dans le Figaro, qui nous expliquait que la majorité, en réalité, des Européens, quand vous regardez pays par pays, n'ont pas envie du tout que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne. L'Allemagne, la France, l'Espagne, on a testé un peu tout le monde. En gros, tout le monde veut garder cette Grande-Bretagne. Est-ce que, justement, cette frilosité britannique, elle n'est pas aussi liée au fait qu'on veut montrer qu'on n'est pas comme vous? On a bien compris que vous aviez envie de Grande-Bretagne, mais nous, en définitive, nous ne sommes pas des Européens, en tout cas, pas exactement comme vous. Et il y a aussi peut-être cette question-là. Les questions identitaires sont importantes aujourd'hui en Grande-Bretagne, comme partout d'ailleurs. Mais est-ce que c'est pas un moyen d'affirmer une identité spécifique, Sarah Picard?
Il ne faut pas oublier qu'au Royaume-Uni, on a déjà deux nationalités. On a la nationalité anglaise, galloise, écossaise ou néerlandaise, plus l'identité britannique. Mais la question d'être européenne n'a jamais été une question vraiment abordée en Angleterre. Et dans tous les sondages, on voit qu'on ne se sent pas européen. Bien sûr, mais depuis le départ, parce qu'on a rejoint la communauté européenne bien plus tard que les autres pays. Donc on n'était pas un
membre. Les Polonais, on rejoint bien plus tard et ils se sentent bien plus européens que les Britanniques, donc c'est pas une question de temps.
Oui, il y a l'insularité aussi qui existe, bien sûr, et puis on a aussi...
Mais est-ce que c'est une manière, à travers la position de Johnson, d'affirmer cette identité britannique aussi?
La question de la britannicité a souvent été discutée depuis quelques années, mais surtout par rapport à le multiculturalisme et l'immigration, mais pas du tout par rapport à l'Europe, non.
Allez, on va évoquer maintenant les questions vraiment économiques. On va écouter George Osborne, donc le chancelier de l'échiquier, donc qui est en charge des finances, en charge du trésor. Écoutez.
Britain would be permanently poorer if we left the European Union.
La Grande-Bretagne sera plus pauvre de façon permanente si nous quittons l'Union européenne. Dans tous les cas, nous commercerions moins, nous ferions moins d'affaires et il y aurait moins d'investissements. Et le prix en serait payé par les familles britanniques. Les salaires seraient diminués, les prix plus élevés. Et cela veut dire que les Britanniques seraient plus pauvres de 4300 livres par foyer. Ne croyez pas le piètre argument selon lequel nous récupérerions au moins un peu d'argent en cessant de verser le moindre centime d'impôt au budget européen. Si nous quittons l'Union européenne, nous perdrions des dizaines de milliards de livres pour nos services publics, parce que notre économie serait plus petite et nos familles seraient plus pauvres. La facture la plus probable pour le service public si nous quittons l'Union européenne est de 36 milliards de livres par an. Soyons clairs, c'est une augmentation de 8 cents sur le taux basique d'impôt sur le revenu. Des impôts plus élevés et une économie moins importante ne sont pas des coûts qui valent d'être payés.
Voilà, donc George Osborne, c'était il y a quelques jours. Quelle que soit l'hypothèse envisagée, la Grande-Bretagne s'appauvrirait de façon permanente si nous quittons l'Union européenne. Voilà ce qu'il disait. Je me tourne vers vous, Catherine Mathieu, l'économiste. Il y a beaucoup d'études, évidemment, sur l'impact possible du Brexit. On a des think tanks, notamment British Influence, qui nous affirment que les conséquences seraient absolument désastreuses. On parle d'un PIB en baisse de 2 points à l'horizon 2030, même jusqu'à 9 points, nous disent certains. D'autres, au contraire, considèrent que finalement, le PIB pourrait même augmenter. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
En fait, c'est très difficile d'apporter une réponse sérieuse à cette question. Hein, parce qu'on n'a pas, en tant qu'économiste, les instruments qui nous permettent de dire exactement ce qui se passerait si le Royaume-Uni sortait de l'Union européenne. Donc, on est obligé d'utiliser des modèles en faisant des hypothèses très fortes, notamment à commencer par le fait que un pays qui a des échanges commerciaux très développés avec, ou le plus développé possible, aura la plus forte croissance, ce qui n'est pas absolument certain, d'envisager ensuite des hypothèses sur le fait que si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, il y aura moins d'entreprises qui voudront investir au Royaume-Uni, ce qu'on ne sait pas non plus. Et puis, les effets que cela aurait à terme sur la productivité britannique. Dans les modèles qui sont utilisés par le Trésor britannique, on fait l'hypothèse que la productivité britannique serait abaissée si le Royaume-Uni quittait l'Union européenne. Mais tous ces éléments-là, en fait, on peut les discuter un à un. Donc, ce qui est très ennuyeux pour moi, c'est que George Osborne nous présente une analyse qui semble tout à fait sûr et qui nous affirme que les ménages britanniques seront plus pauvres si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, sur la base de modèles malheureusement dont les hypothèses sont discutables. Et on peut dire effectivement aujourd'hui, je pense, si on veut être raisonnable, qu'on pourrait avoir soit un petit impact positif à une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ou un impact négatif. Les études que vous avez données donnent l'éventail des fourchettes, mais savoir l'impact que aurait ce choix aujourd'hui à l'horizon 2030, franchement, on ne peut pas sérieusement l'affirmer.
Bon, en tout cas, il convainc le monde de l'entreprise. Ben,
c'est-à-dire qu'en fait,
je rappelle parce que vous, on est en partenariat aujourd'hui avec l'Obs qui sort un excellent dossier sur cette question du Brexit. Donc vous êtes avec nous, Sophie Fay, puisque vous êtes chef du service économie du côté de l'Obs. Vous avez eu l'occasion de rencontrer des gens, et notamment du côté de la City. Clairement, on est contre cette sortie possible de la Grande-Bretagne. Là, il n'y a pas photo. Hein.
Les milieux d'affaires sont majoritairement contre.
Très majoritairement.
Mais en même temps, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec Osborne. Ils trouvent qu'il va un peu loin, parce qu'il y a toute cette campagne qui a été surnommée Project Fear, le projet peur, où on essaye de dire aux électeurs que ça va être l'apocalypse s'ils sortent de l'Union. Alors on voit que à très court terme, au fond, c'est la seule chose qu'on peut mesurer avec certitude. À très court terme, ça va heurter beaucoup l'économie britannique. On voit que déjà, depuis novembre, la livre sterling a baissé 12% face à l'euro. On voit qu'il commence à y avoir un petit ralentissement de l'investissement, puisque on se dit en ce moment, qu'est-ce qui va se passer si je suis une entreprise internationale, une banque? Je me dis, est-ce que je loue un étage de bureau de plus, ou bien est-ce qu'il faut plutôt que j'attende un peu de voir?
Mais ça, c'est l'effet de l'incertitude, en réalité.
Voilà, mais l'effet de l'incertitude, ça va durer 2 ans, et ça ne va pas faire rentrer le pays en récession, mais ça va faire passer la croissance de 2%, elle est bonne, la croissance britannique, en ce moment, par rapport à la nôtre, ça va la faire baisser d'1,5%. Et donc, 1,5%, c'est beaucoup. Et ensuite, vous avez une deuxième chose. On ne sait pas à long terme ce que ça va produire. Mais vous savez, il y a un buzz autour de Londres. Il y a un buzz autour de l'Angleterre. Même les villes britanniques où on n'allait pas avant, Birmingham, Liverpool, commencent à se développer. Il y a un buzz autour de Shakespeare. Tout le monde veut aller là-bas. Et c'est une partie de ce qu'on montre dans le dossier, là, dans les pages tendances. Mais ça, c'est très fragile. Qu'est-ce qui fait qu'un pays attire? Qu'est-ce qui fait que les meilleurs financiers, que les meilleurs informaticiens, que les meilleurs commerciaux, les meilleurs marketeurs, les meilleurs étudiants ont envie, les meilleurs professeurs ont envie d'aller à un moment donné passer un temps dans ce pays où l'immobilier est hors de prix, où les lois sociales sont assez peu protectrices pour les jeunes, mais ça fait rien, ils sont quand même contents d'y aller travailler. Et cette magie-là, est-ce qu'on risque pas de la casser s'il y a un peu moins de croissance, même si c'est temporaire à court terme, et s'il y a un peu moins de signaux d'amitié envoyé au reste de l'Europe.
Sarah Picard.
Oui, et puis le taux de chômage vient d'augmenter aussi hier, pour la première fois depuis longtemps, en raison de cette incertitude. Moi, j'ajouterais aussi au fait que vous pensez aussi que les étudiants, par exemple, tous les étudiants internationaux qui vont en Angleterre, et si on sort de l'Union européenne, ben, ce sera la fin de l'Erasmus, etc. Donc, les conséquences sont importantes, mais on commence juste à ce moment-là d'en parler. Hein. Et j'espère qu'on va avoir un débat plus profond, justement, sur les pour et les contre, parce que pour l'instant, c'est quand même largement fondé sur les personnalités et au lieu des vrais sujets. Ou le Project Fear, comme vous avez dit, c'est une campagne pour l'instant fondée sur la peur. Et c'est dommage qu'on ne discute pas vraiment. On ne discute pas vraiment de le sentiment d'appartenir à l'Union européenne et des choses dont on parle souvent en France ou en Allemagne, les liens émotifs par rapport au passé, etc. Donc on ne discute absolument pas les côtés positifs de l'Union européenne.
Catherine Mathieu, vous voulez réagir?
Peut-être pour dire que justement sur cet aspect émotif, en fait, de façon générale, les Britanniques et en tout cas clairement David Cameron disent qu'ils n'ont pas une relation passionnée à l'Europe. Justement, c'est vraiment une relation très pragmatique et qui est vraiment basée sur les intérêts économiques du Royaume-Uni à être dans l'Union européenne. Alors de ce point de vue-là, les travaux qui ont été publiés par George Osborne en début de semaine vont vraiment au cœur de la question. Pour les Britanniques, est-ce qu'on serait plus riche ou plus pauvre en sortant ou en restant dans l'Union européenne? Et effectivement, ça vise à faire peur aux citoyens britanniques qui sont... Effectivement, 20% d'entre eux ne savent pas aujourd'hui s'ils vont voter pour rester dans l'Union européenne ou pour sortir. Donc en avançant des chiffres aussi énormes que 4300 livres, donc c'est à peu près 5000 euros de perte de richesse par an pour un ménage britannique, ça fait nécessairement peur. Et puis peut-être en complément aussi, j'ajouterais que quand on regarde les sondages, on voit qu'on a 20% d'incertains. Mais quand on regarde par tranche d'âge, chez les jeunes britanniques, il y a vraiment une grande majorité qui est pour rester dans l'Union européenne. Et plus on avance dans l'âge des Britanniques, plus on a des gens qui sont... tout à fait. Et donc, on imagine bien que la peur et l'argument économique peuvent jouer pour les tranches d'âge des plus âgés.
C'est d'autant moins compréhensible, parce que vous parliez de Project Fear, finalement, pour voir ce que pourraient être les conséquences, regardons en arrière. Au début des années 90, quand il y avait beaucoup, beaucoup de débats aussi sur le coût possible de la non-participation de la Grande-Bretagne à la zone euro, quand on regarde aujourd'hui, 25 ans plus tard, et qu'on compare les PIB britanniques et le PIB global de l'Union européenne, les Britanniques sont largement devant. On a 68% d'augmentation contre 48%. Donc en réalité, est-ce que, en fait, la question c'est la suivante, est-ce qu'on ne sous-estime pas, d'une certaine manière, la capacité d'adaptation des Britanniques?
Oui, moi c'est ce que je pense. Je sais pas si
Sophie Fay.
Oui, elle sera très forte. Et puis même, en fait, quand on regarde, il y a un think tank qui se présente comme un think tank un peu neutre, mais qui est quand même très eurosceptique, qui avait beaucoup poussé pour qu'il y ait une réforme, pour que Cameron obtienne le maximum dans ses négociations avec l'Union européenne, qui s'appelle Open Europe. Et eux, ils disent à la fin, en gros, c'est plus 1%, moins 1% dedans ou dehors. Donc,
finalement, quel que soit le choix, on finalement sortira.
Mais ça n'apporte rien. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Les Britanniques vont devoir négocier des accords de libre-échange avec l'Union européenne. On ne va pas leur faire de cadeaux. On ne va pas leur dire écoutez, super, vous avez eu raison, et puis que plein d'autres pays d'Europe fassent comme vous, donc on va vous faire un cadeau. Non, pas du tout. Les négociations, elles vont être difficiles. On va un peu traîner des pieds. À la fin, ils obtiendront probablement la même chose, mais on demandera des contreparties. Et quand vous prenez le cas des pays qui sont dans la même situation, donc qui ont un accord pour avoir accès au marché unique, et qui, comme la Suisse ou la Norvège, ils payent une contribution. Et ils sont obligés aussi d'accepter la libre circulation des personnes. Donc finalement, si c'est pour ne pas changer si c'est pour que ça ne change pas grand-chose, que ça n'apporte pas grand-chose en plus, pourquoi prendre un tel risque ?
Catherine Mathieu, ensuite Sarah Picard, et puis ensuite on parlera de la question de l'Écosse, qui est importante aussi dans ce débat-là. Catherine Mathieu.
Oui, effectivement, l'exemple le fait que le Royaume-Uni ait choisi de ne pas entrer dans la zone euro, c'est un bon exemple, parce que ce qu'on disait à ce moment-là, beaucoup d'économistes disaient, oui, mais à ce moment-là, l'économie britannique va perdre par rapport aux autres pays européens, et en particulier, la City va voir son rôle diminuer en Europe et dans le monde. Or, on a vu que c'était pas du tout le cas, qu'effectivement, aujourd'hui, le Royaume-Uni a une croissance plus forte que les pays de la zone euro, que la place de Londres est restée la deuxième place financière à l'échelle mondiale. Et je pense qu'on a tendance à surestimer les risques pour l'économie britannique à long terme d'une sortie du Royaume-Uni, et que notamment pour la City, il y aurait tout à fait une capacité de rebond et de se réadapter tout à fait à un monde dans lequel le Royaume-Uni serait complètement libre de toute réglementation européenne. Et à la limite, pourquoi pas, la City deviendrait un grand paradis fiscal juste à nos portes.
Sarah Picard.
Oui.
Bon, on n'en manque pas, ceci dit. Sarah Picard.
Oui, je pense que les Anglais vont probablement dire mieux le diable qu'on connaît déjà. Donc, probablement, vous restez dans l'Union européenne au lieu d'avoir toutes les incertitudes. Mais c'est surtout, moi, je pense que les autres pays européens, ils ont un petit peu peur de l'effet boule de neige si on sort de l'Union européenne. Il a les grandes conséquences, et peut-être les causes après.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde cette semaine autour des Panama Papers, cartographie d'un scandale aujourd'hui après les Panama Papers, Cameron face au défi. Nos invités autour de cette table, Sarah Picard, Catherine Mathieu et puis Sophie Fay, qui est journaliste, la chef du service économie de l'Obs, qui sort un dossier justement sur le Brexit. On va parler désormais de la question écossaise. Alors l'actualité en Écosse, c'est le Brexit, mais c'est aussi les élections pour élire un nouveau Parlement. Les enquêtes donnent le Scottish National Party gagnant. Le Parti Nationaliste écossais est au pouvoir, rappelons-le, depuis 2007. Rappelons également qu'en 2014, il y avait eu un référendum sur l'indépendance qui s'était tenu. Finalement, c'est le non qu'il avait emporté avec 55% des voix. Alors, quelle est la position de la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, sur le Brexit ? Écoutez.
Permettez-moi d'être tout à fait clair. Je veux que le vote du 23 juin entraîne une victoire écrasante à travers toutes les régions du Royaume-Uni pour rester dans l'Union européenne. Si moins de 2 ans après le référendum, l'Écosse devait se retrouver mise en dehors de l'Union contre notre volonté, parce que nous avons choisi de rester dans le Royaume-Uni, ce n'est pas difficile de voir pourquoi cela pourrait conduire à une clameur croissante en faveur d'un autre référendum.
Voilà, donc on comprend que Sturgeon fait campagne comme David Cameron pour le maintien. On va retrouver une nouvelle invitée. Bonjour Émilie Saint-Denis.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes doctorante à la Nottingham Trent University. Vous êtes chercheuse au Centre de recherche sur le futur constitutionnel de l'Écosse. Je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu la position de Nicola Sturgeon. Parce que, en réalité, moi en tout cas, je ne comprends pas complètement cette position. Parce qu'on se dit qu'après tout, l'hypothèse d'un Brexit, c'est une formidable opportunité pour les indépendantistes écossais. Ça leur permettrait de demander l'intégration à l'Union européenne. Ils ont déjà prévenu qu'ils demanderaient immédiatement cette intégration. Et du coup, de sortir de facto du Royaume-Uni, qui d'ailleurs, de facto, n'existerait plus, Émilie Saint-Denis.
Tout à fait. Donc, c'est un peu l'image que donne cette parole-là. Pourquoi pas stratégiquement pousser pour un vote pour quitter l'Union européenne et ensuite en profiter pour un IndyRef 2, un deuxième référendum. Mais en soi, il faut comprendre que le référendum de 2014, il n'est pas très ancien. Le résultat avait été clair. C'était supposé fermer la conversation, boucler la discussion pour ce qu'on disait une génération. Et maintenant, on se retrouve avec la possibilité de devoir en tenir un deuxième. Et ce que le SNP, le Parti National, voudrait, ce serait réussir à convaincre l'électorat écossais de vouloir l'indépendance en soi, légitimement, en dehors de discussions de l'Union européenne, etc. Et c'est donc pour ça, par exemple, qu'un deuxième référendum n'a pas été intégré au manifeste politique, au programme politique pour l'élection dans 2 semaines.
Ceci dit, ça c'est une position récente, parce que ces derniers mois, la position de la Première ministre, c'était de dire qu'en cas de Brexit, l'Écosse réorganiserait un nouveau référendum sur l'indépendance, considérant que c'est l'Écosse que l'Écosse n'a pas à subir finalement le choix des Britanniques dans leur ensemble. Et c'est assez récemment, je crois qu'hier encore, elle a redit que son parti ne ferait pas campagne pour un nouveau référendum. Comment comprendre ce changement de position ?
Il faut comprendre qu'au sein du parti en soi, il y a des personnes qui sont très pro-indépendantes, ils le veulent tous, mais à des échelles différentes. Il y a ceux qui, bien sûr, ont voté pour il y a 2 ans ou 1 an et demi, et il y a ensuite ceux qui souhaiteraient peut-être une échéance plus longue pour essayer d'ancrer l'idée de l'indépendance dans l'esprit des gens. Et donc, il faut satisfaire les deux parties. D'un côté, il y a un parti et surtout les leaders du parti qui ne souhaitent pas dépenser plus d'argent, plus d'énergie pour refaire un vote qui aurait peut-être le même résultat, tout bien sûr en maintenant l'électorat qui ont voté pour l'indépendance, qui vote pour eux parce que c'est le parti de l'indépendance, en leur donnant ce qu'ils veulent aussi. Donc c'est une question de stratégie du parti aussi.
Sachant qu'il y a aussi une question, je crois, purement constitutionnelle, parce que je crois qu'il y a un peu une barrière. Je ne sais pas si l'Écosse pourrait organiser un nouveau référendum, sachant que le précédent avait été en fait accepté par Londres à condition qu'il se fasse avant la fin 2014. Donc je crois qu'il y a aussi un débat du point de vue purement du droit sur cette question, de savoir si on peut réorganiser ou pas une nouvelle consultation. Non, je ne me trompe pas, hein ?
Tout à fait. Donc, on avait, après le référendum de 2014, il y avait une discussion qui a donné lieu à un échange de pouvoir. Donc, le Parlement aura plus de pouvoir. Il y avait donc la question de si le Parlement écossais pourrait donc, dans le futur, être purement responsable pour cette question-là. Et ça n'a pas été tranché. Donc, il faut encore des négociations avec le Parlement britannique pour pouvoir passer un deuxième.
Je voudrais peut-être des réactions ici en plateau avec nos invités. On sait, Sarah Picard, que les Écossais sont extrêmement europhiles. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont déjà répété à plusieurs reprises que, en cas de sortie de l'Union européenne, ils demanderaient une intégration immédiate à nouveau à l'Union. Dans quelle mesure est-ce que cette menace de l'émancipation vis-à-vis de Londres est un élément important chez les Anglais? Est-ce que ça joue, justement, parce que je le disais, de fait, le Royaume-Uni n'existerait plus dans ce cas-là? Est-ce que c'est une crainte qui peut jouer dans le vote?
Je pense pas que les Anglais vont faire très attention à ce que les Écossais souhaitent faire ou ne pas faire.
Ah oui.
D'ailleurs, ils n'ont pas eu le droit de voter par rapport au référendum l'indépendance de l'Écosse. Mais ce qui est intéressant, c'est que Nicola Sturgeon, quand même, elle joue pas le jeu du cynicisme politique en disant oui, on veut le Brexit parce que ce sera mieux pour l'Écosse d'être indépendant. Donc c'est une des rares femmes en politique qui joue base peut-être le jeu d'opportunisme que certains d'autres en fait. Et donc,
vous la trouvez responsable?
Oui.
C'est ce que j'entends.
On ne dit pas beaucoup de bien des hommes politiques, mais je pense beaucoup le coup.
Catherine
oui.
Mathieu.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Sarah, effectivement. Elle est tout à fait cohérente, Nicola Sturgeon. Elle souhaitait que l'Écosse reste dans l'Union européenne. Si on revient à 2014, quand il était possible que l'Écosse sorte, quand on regardait un peu les sondages, à ce moment-là, les Anglais disaient à l'Écosse, bah, écoutez, si vous sortez, vous sortez. Et puis l'Union européenne disait aux Écossais, ah oui, mais si vous votez pour être indépendant, eh ben dans ce cas-là, il n'y a aucune garantie qu'on vous accepte dans l'Union européenne. Il faudra rentrer dans des négociations, aucune garantie. Oui, parce
on avait donné des très bons signaux, c'est pas tout à fait vrai. On avait donné des très bons signaux. On avait dit qu'a priori, ça poserait pas de problème.
Si, justement, on avait dit que ça poserait problème parce que... À ce moment-là, déjà, en Catalogne et dans d'autres régions européennes, il y avait des velléités d'indépendance. Et justement, l'Europe a eu une position officielle très claire par rapport à l'Écosse en disant qu'il faudrait mettre en place tout un système de négociation, qu'il faudrait vérifier si l'Écosse a rempli bien les critères d'adhésion à l'Union européenne. Et ça a beaucoup joué, je pense, dans le scrutin. C'était très, très difficile. Et donc aujourd'hui, Nicola Sturgeon, elle est tout à fait cohérente en disant, voilà, nous, on reste sur notre ligne. On souhaite rester dans l'Union européenne.
Sophie Fay, quand vous êtes rendue à Londres pour faire ce dossier qui paraît dans l'Obs, est-ce que cette question écossaise était présente ou pas du tout?
Elle était présente. Plusieurs personnes ont mentionné ça comme le risque politique le plus important, peut-être même plus important que le risque économique. Un des points qui était intéressant aussi à souligner, c'est que les deux personnalités politiques dont on souligne le charisme, c'est Boris Johnson, donc qui est pour une sortie, et Nicola Sturgeon, qui est pour un maintien. Et vu l'affaiblissement de George Osborne et de David Cameron en ce moment, ça voix compte beaucoup. Il y a un autre point qui a été beaucoup souligné par mes interlocuteurs, c'était le risque de ce qui va se passer en Irlande. Qu'est-ce qui se passe avec l'Irlande du Nord s'il y a une sortie? Est-ce qu'ils ne vont pas aussi demander un référendum pour une réunification de l'Irlande? Et donc, il y a quand même une angoisse. J'ai même entendu parler de questions au Pays de Galles.
Émilie Saint-Denis, ça, c'est une chose que vous sentez aussi, qu'en répercussion, peut-être que l'Irlande et le Pays de Galles pourraient également demander une sortie?
Tout à fait. À partir du moment où l'Écosse a eu son référendum en 2014, les autres petites nations du Royaume-Uni nous regardaient, ont appris, le Pays de Galles, par exemple, a ensuite renégocié les pouvoirs auxquels son assemblée a droit. Et l'Irlande du Nord, qui a donc une assemblée dévolue aussi, elle, a des relations très différentes, puisque c'est le seul morceau du Royaume-Uni qui a une frontière physique avec l'Europe. Donc c'est vrai que ces pays-là ont appris de notre expérience, ils ont appris que c'était possible de négocier un certain nombre de choses, ils ont appris que la légitimité la légitimité de la parole du peuple était importante, que les référendums étaient un bon mécanisme pour faire sortir le désir, la velléité justement du peuple. Et quelque part, c'est ceux auxquels on parle le moins, c'est ceux qui, on a l'impression de garder sur les côtés, ils regardent, mais ce ne sont pas des interlocuteurs à part entière.
Merci beaucoup, en tout cas, Émilie Saint-Denis, d'avoir été avec nous ce matin.
A British bank is run with precision. A British home requires nothing less. Tradition, discipline and rules must be the tools. Without them, disorder, chaos, moral disintegration. In short, you have a ghastly mess.
I quite agree.
Bon, évidemment, je vous demande pas, vous avez tous reconnu, hein, Mary Poppins, Sarah Picard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Un grand merci à vous, Catherine Mathieu, et puis un grand merci à nos partenaires de L'Obs, en la présence aujourd'hui de Sophie Fay. Je rappelle donc L'Obs qui sort ce énorme dossier extrêmement intéressant sur le Brexit, Brexit or not Brexit.
Merci beaucoup.
Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin.